Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Nicolas Benita.
Bonjour, bonsoir. Au Mali, on se souvient d'ATT, l'ancien président Amadou Toumani Touré. En France, les plus anciens se souviennent des PTT, comprenez poste, télégraphe et téléphone, et pas petit travail tranquille, comme se moquait gentiment l'humoriste Danny Boone. Depuis le tournant des années 2000, les cyclistes un peu casse-cou aiment faire du VTT, vélo tout-terrain, pendant leur RTT, réduction du temps de travail, en espérant que cela ne les conduira pas à une ITT, interruption temporaire de travail. Et bien après ATT, les PTT, les RTT, les ITT et les VTT, voici la CTT, la chanson tout terrain. C'est cette étiquette qui n'en est pas vraiment une que ces trois mousquetaires, qui sont quatre, comme ceux de Dumas, accolent sur leurs albums qui swingent avec la bonne humeur, le bon humour et le bel amour. Après Le Fruit du Bazar, après Habillé d'Humeur, après La Bulle Époque, voici Parfum des Temps, le nouvel EP, comprenez le nouveau mini-album de Bazar et Bémol, et vous m'en direz des nouvelles.
Mais la fête et la cour ont changé de roi. Chaque jour, une page du Petit Prince se tourne pour toujours, mon cœur se pince. Sache, Sacha, que dans ma tcha-tcha-tcha,
bonjour Chach.
Bonjour.
Bonjour Ronan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes deux des musiciens de Bazar et Bémol. Alors une chanson sur la paternité et même sur la primo-paternité pour ouvrir ce mini-album. Quand on regarde le clip, on se rend compte que c'est vous, Chach, qui chantez en jouant du banjo. Est-ce que Sacha, c'est le tcha-tcha de Papa Chach?
Exactement, c'est mon premier tcha-tcha. Il y a eu deux tcha-tcha derrière, mais on en parlera dans prochaine chanson.
Ouais.
Et oui, c'est mon premier enfant. Et puis ma compagne a beaucoup insisté pour que j'écrive une chanson sur mon enfant.
Vous n'avez pas le choix.
Moi j'avais un peu envie de le faire, mais c'est très délicat comme sujet à aborder, parce que ça peut très vite être un peu cucul à praline, ce genre de sujet, de dire ah bah, j'ai un enfant, je suis heureux. Beaucoup d'artistes l'ont déjà fait. Et donc je repoussais un peu le moment, et puis elle m'a forcé et j'ai dit bon allez, je vais trouver quelques jolies phrases pour notre premier enfant.
En plus, quand on appelle son fils ou sa fille Sacha, on sait pas trop, parce que c'est un prénom épicène, Sacha, c'est un bonheur pour un parolier. C'est plus simple d'écrire sur Sacha que sur Rosalinde ou Cunégonde ou Gonril.
Ouais, c'est un peu plus harmonieux déjà. Ouais. Et puis et en plus c'est un prénom que j'ai choisi, donc ça m'a vachement arrangé d'écrire sur un sujet vraiment choisi de A à Z.
Donc Sacha, c'était forcément un tcha-tcha.
Sacha, c'était tcha-tcha.
C'est de là que vous êtes parti? C'était ça le point de départ de l'écriture?
Le point de départ de l'écriture, d'abord, ça a commencé par la musique. Je voulais une musique qui sonne un petit peu Walt Disney, qui soit très joyeuse et qui inspire un peu les Aristochats, les Aristo-Sacha.
Oh là là.
Et après, le texte a commencé. Et puis, non, le refrain, le sache-sacha que dans ma tcha-tcha-tcha, il est venu un peu plus tard. J'ai écrit la chanson comme vous l'entendez. Première phrase à la dernière, ça arrivait dans ce sens-là.
Donc, si l'enfant s'était appelé Sarah, ça aurait été une salsa. Pour Anne, ça aurait été une sardane. Orelsan et pour Abélard un Ballard.
Bah, je pense, je connaissais toutes ces musiques sûrement, oui.
Bon, et musicalement, alors Renan, vous avez choisi un rythme de jazz style New Orleans, pour quelle raison?
Ouais, effectivement, bah, comme dit Chash, il avait voulu un truc un peu joyeux, très, très gay. Et dans son écriture de base, cet aspect jazzy et joyeux était présent. Et on a été vraiment encore plus loin en faisant le New Orleans, en faisant un New Orleans. Notre batteur, qui est un nouveau membre du groupe, s'y connaît très très bien. Il a beaucoup étudié ça aussi, donc il nous a aussi un peu aidé et donné des indications. Et on l'a renforcé en plus parce que nous dans le groupe il y a un trompettiste, Raphaël. Mmh. Mais on a eu deux invités là sur ce titre que vous entendez faire après les refrains. Il y a une clarinette. Et un trombone et voilà qui renforce cet aspect New Orleans et qui est joyeux et qu'une musique que nous on aime qui entre guillemets ça peut paraître vieillot mais qui se démode pas dans cet aspect vieillot et que voilà nous on aime.
En tout cas quand on fait gaffe au texte, Chash, on se dit que la paternité, on rigole mais c'est quand même du sérieux quoi sur le fond si on fait attention aux mots.
C'est vrai que je dis que ça m'a fait arrêter d'être un peu étourdi, on est obligé de prendre soin de quelqu'un d'autre et donc d'arrêter d'oublier un peu tout pour soi-même parce qu'on doit, on peut en tout cas oublier tout pour soi-même mais penser forcément à notre enfant. Et puis je parle aussi des nuits un peu compliquées. Ouais, les nuits chantent fort, je dis ça dans le pont. Mais bon, c'est une sorte de douleur-plaisir quoi.
L'ensemble est souriant quoi, donc c'est ça qu'il faut retenir.
Le champ de fraises qui recouvrait sa bouche, j'ai cueilli le fruit rouge braise, couche après couche dans le bois sauvage qui peuplait son regard, j'ai perdu le nord et mon âge, soir après soir, le temps se rit de nos tempes qui se rident. Si mon corps diminue, pour elle mon cœur bat comme au début. Constellation d'Aphrodite sur le bout des doigts de danserie. Mon corps diminue, pour elle mon cœur bat.
Comme au début, bazar et bémol dans VMDN sur RFI, extrait de leur nouveau bébé, puisqu'on évoquait la paternité. Alors remontons au début, justement, Chaché et Ronan, le groupe, comment il est né ?
Eh bien écoutez, c'est la rencontre de trois personnes, Chach, Raphaël et Ronan. On s'est tous les trois rencontrés au lycée à Versailles, où on a étudié. On a commencé à faire un peu de musique ensemble, et le groupe s'est créé quelques années après, en 2007. Voilà, on faisait de la chanson, on écoutait beaucoup à l'époque la nouvelle scène française. Les trios Rue Cutanou, Mano Solo, Greux de Barbac, etc. Et voilà, on a joué dans les cafés pendant nos études. On a fini nos études, qui n'avaient pas spécialement de rapport avec la musique, en 2010, et on s'est lancé professionnellement en 2010. Voilà, à jouer partout en France où on nous appelait, même en dehors de la France.
Un peu dans le métro aussi, j'ai vu ça. Dans les rames de métro aussi. Vous avez beaucoup ramé au début.
Effectivement, c'était parce que il fallait bien vivre, qu'on s'est lancé là-dedans et qu'on avait, voilà, il fallait gagner sa sous. Et c'est pas avec des cafés-concerts parisiens que vous pouvez ramener beaucoup d'argent pour vivre.
Non, mais c'est une bonne école quand même, le café-concert.
Le café-concert, je le critique pas. En tout cas, c'est juste que il faut vivre. Donc nous, on avait fait ce choix-là de faire que ça. Donc on faisait les cafés, qui est une très bonne école, et la rame de métro. Effectivement, on a beaucoup joué dans le métro à Paris.
Qui permettait de remplir les cafés, d'ailleurs.
Voilà. Parce que vous avez la promotion dans le métro. Ah oui, d'accord, il y a tout un
réseau comme ça, tout un filon. C'est tout un circuit court.
Et voilà, on a beaucoup joué. Effectivement, ça nous a fait beaucoup connaître, beaucoup de public, parce que finalement, tout le monde, tous les milieux sociaux, tout le monde va dans le métro. Donc ça, c'était une grande chance. Ça nous a permis de développer certaines approches, la communication avec le public, la voix aussi, tout simplement, de chanter, c'est pas, voilà. Et puis, bah voilà, au fur et à mesure, on a réussi à en vivre, à devenir intermittent du spectacle, ce qu'on est depuis plus de 10 ans, à sortir 3 albums, et depuis 1 an et demi, à accueillir un nouveau membre dans le groupe. Voilà, effectivement, un batteur.
Alors, bémol, on comprend, puisque c'est de la musique, pourquoi bazar?
Bah, c'est plutôt, faut concevoir le nom dans son ensemble, mettre un bémol sur un bazar, c'est adoucir le bazar. Donc au début, on était 3 et on avait 8 ou 9 instruments pour 3. Et ben, c'est une sorte de bazar organisé et adouci par ces petits bémols qu'on y ajoutait.
Oui, c'est peut-être aussi parce que dans bazar et bémol, on trouve tous les types de musique, enfin en tout cas des genres musicaux très, très différents. L'idée, c'est d'ôter les étiquettes ou de faire en sorte qu'on vous colle aucune étiquette dès le départ. L'étiquette du groupe, c'est un peu de pas en avoir.
C'est exactement ça l'idée. Je pense que l'être humain a besoin quelque part d'avoir une étiquette et de cataloguer les gens, les styles, etc. Donc forcément, on dit qu'on est un groupe de pop swing en français. Mais effectivement, nous, on veut s'arrêter à rien du tout musicalement. Notre seul fil rouge est d'avoir des textes qu'on essaye d'écrire, de soigner au maximum. Des harmonies vocales.
En français, les textes, bien sûr.
En français, oui, bien sûr. Des harmonies vocales, parce qu'on aime ça, on est 3 chanteurs et on a envie de développer ça, qui n'est pas si courant aujourd'hui, qu'il a été à une époque, dans le jazz, justement, dans les années 30, 40, même dans la pop, dans le rock et pop-rock des années 60, il y a beaucoup ça, il n'y a plus beaucoup ça. Donc ça, on veut le garder, et une grosse énergie. Voilà, c'est ces trois aspects-là qui font que Bazar et Moll est Bazar et Moll. Et après, autour de ça, et ben, si on veut mettre de la bossa, on met de la bossa. Si on veut mettre du groove, si on veut mettre du rock, si on veut mettre...
Du New Orleans,
voilà.
Mais c'est le thème qui donne effectivement le genre musical, l'ambiance de la musique, ou bien au contraire, parfois, vous arrive de partir d'une mélodie pour ensuite en arriver à un texte?
Alors, la plupart du temps, ceux qui écrivent les paroles dans le groupe, c'est Ronan et moi, donc les deux présents aujourd'hui. Et les autres écrivent des musiques. Enfin, tout le monde écrit de la musique dans le groupe. Et les deux paroliers sont Ronan et moi, Chach. Et moi, comment je fonctionne, c'est que je cherche une musique d'abord. Et donc, ça va être une musique... un style va venir, je vois, ce style-là, c'est plutôt rumba. Et ben, du coup, selon le style de musique que j'ai, ça va plutôt m'orienter vers... un thème qui va me... C'est la musique qui va m'orienter vers un thème.
Donc, par exemple, là, dans quelques secondes, on va écouter Son Temps. Quelle est la genèse de cette chanson?
Mais je laisse l'auteur-compositeur en parler.
Voilà, ouais, ça, c'est moi qui écris, là. Effectivement, la musique et
Ronan.
Le texte.
Ronan.
J'avais plus... moi, j'ai aussi... On ne fonctionne pas exactement de la même manière avec Chach. J'ai beaucoup de musique qui existe, que je crée tout le temps, en continu. Un paquet de musique. Et j'ai des idées de texte que je mets plus de temps à écrire. Et je pioche, on va dire, parfois dans les musiques, ou parfois je crée quelque chose d'original qui n'existait pas, selon effectivement le thème. Et là, j'avais une musique séparée et j'avais l'idée de ce thème. Et voilà, je les ai rapprochés, j'ai poursuivi ce petit bout de musique qui préexistait pour l'accrocher un peu plus au thème.
Il galope tant qu'il peut galoper, derrière la trotteuse brûlant d'attraper.
minutes perdues, secondes cachées, instant qui refuse de laisser passer.
Grâce aux trois aiguilles de sa calculette, il parle du temps en gain et en perte, les yeux rivés sur le décompte lent, éphéreuse du dépôt de bilan.
À vouloir remplir et remplir son temps, devient absent, absent du présent.
Comment résister aux plats séduisants à l'époque des désirs abondants, sa bouche dévore le menu entier sans même penser à le déguster.
Ses journées ressemblent à des verres vides qu'il inonde, quel que soit le liquide.
Ainsi il boit et gonfle son siphon.
Temps, extrait de Parfum des temps, le nouvel album de Bazar et Bémol sur RFI avec Chache et Ronan, deux des quatre membres du groupe. Alors Ronan et Chache, tous les deux, vous écrivez, vous composez, vous chantez, vous jouez de la guitare. Ronan, la contrebasse est aussi dans vos cordes. Il y a Raphaël qui est aussi guitariste, qui chante aussi quand il souffle pas dans sa trompette, qui active aussi les congas. Et il y a donc le petit nouveau Marco qui est à la batterie. Hein, c'est votre nouveau spécialiste des percussions. C'est bon, il s'est bien intégré. Ça va, vous lui avez fait de la place et tout. Ouais. En tout cas, vous êtes tous multi-instrumentistes, quoi. Formation classique, transmission amicale ou vrai autodidacte ?
Eh ben, il y a un peu de tout hein, entre nous.
Moi, j'ai fait formation classique. Chache. Moi, Chache, violoncelle de 6 à 15 ans. Donc, on connaît la musique et conservatoire. Oui. Donc, je jouais que du classique. Et après, à 15 ans, bah, c'est un peu l'âge où on commence à en avoir un peu marre des choses un peu strict comme le classique et on veut se rebeller, donc j'ai appris la guitare pour aller un peu draguer sur les plages et ça a très bien marché. Puis après j'ai pris ça au sérieux, j'ai fait un groupe.
Ça a très bien marché au niveau guitare ou au niveau drague?
Je préfère ne pas le dire.
D'accord, très bien. En tout cas vous avez la guitare en partage tous les deux hein. Ouais. Alors, sur l'album il y a de la guitare acoustique, il y a de l'électrique, bon vous maîtrisez un peu le classique, la guitare manouche aussi. La guitare c'est vraiment un instrument qui permet de tout jouer?
Oui.
De pénétrer tous les univers musicaux?
Déjà la guitare est un instrument assez facile. On peut ressortir quelque chose d'audible sans être un spécialiste. Et il y a tous les types de guitares qui sont assez variées et que, comme vous venez de le dire, sont présentes sur notre album, permettent effectivement plein de choses différentes qu'on exploite autant que possible.
Et c'est un instrument transportable également.
Oui, c'est ce qui est plutôt utile, effectivement. Passer de la guitare au ukulélé ou au banjo, c'est évident, c'est pas un problème.
Alors pour ukulélé, oui, ça va, j'ai pas un gros niveau d'ukulélé non plus, et pour le banjo, j'avoue que j'ai triché. Normalement, un banjo, c'est à 4 cordes et c'est pas accordé comme une guitare, et moi j'ai pris ce qu'on appelle un banjo guitare, donc j'ai pas eu à apprendre un nouvel instrument.
Alors l'album il sort aussi le vécu hein. Il y a une chanson sur le confinement, il y a une autre chanson sur les grandes villes qui s'appelle Adieu la ville. Ouais. Ce sont vraiment de vos expériences personnelles et en l'occurrence singulièrement du confinement qui est né ce mini-album.
Effectivement sur les textes de cet album là il y a beaucoup plus de nous, je dirais, et j'ai l'impression que plus on avance plus on y met un peu plus de nous qu'auparavant. Adieu la ville, bah ça en l'occurrence c'est moi qui l'ai écrit le texte, la musique, bah voilà, ça c'est un exemple, la musique a été écrite par Raph,
le trompettiste
qui n'avait donc pas fait de texte et j'ai posé un texte dessus. Ça correspond effectivement à du vécu pour moi, j'ai déménagé, j'habitais à Paris, j'ai déménagé, alors pas très loin, j'ai déménagé à Gentilly dans le 94, mais...
Oh, ça va, donc c'est vrai, il y a des changements plus radicaux que dans les pays. Mais bon, cela dit, quand on vient de Versailles, habiter Gentilly, c'est peut-être aussi un grand saut.
Oui, mais la grosse différence en l'occurrence pour moi, c'était que j'ai toujours habité dans un appartement et là c'était une maison, c'est une maison. D'accord. Avec un jardin et ouais. Voilà, ça a fait une petite différence et j'ai, on va dire, extrapolé ça, j'ai la sensation avec le Covid en plus que beaucoup de gens ont assez de cet enfermement, de ces petits espaces, ont besoin de respirer et d'avoir ces petits légumes quoi, et donc du coup j'ai un peu extrapolé de mon expérience pour dire on en a un peu marre de ces villes froides, aseptisées, et voilà.
Alors comment est-ce que vous partez à l'assaut des musiques du monde pour le coup, puisque il y a pas effectivement, autant les textes sont en français, autant les musiques, les arrangements résonnent comme des musiques extra françaises, souvent européennes hein, sur cet album là, mais pas forcément. Ça commence par quoi, par des voyages, par des rencontres, par l'écoute d'autres artistes, c'est quoi le point de départ de...
L'écoute, forcément on a la chance aujourd'hui de pouvoir en fait écouter toutes les musiques du monde entier en restant dans sa chambre. Donc c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est très bien de voyager, mais disons qu'on a accès à tout. Donc effectivement, on écoute beaucoup de tout. Il y a Raph, le trompettiste, qui n'est pas là, qui lui écoute beaucoup de musique du monde. Il a une fanfare balkan, il a eu un groupe de cumbia, qui est de la musique sud-américaine. Donc il s'y connaît très bien là-dedans, peut-être plus que chez moi.
C'est un peu le guide de musique du monde du groupe.
Voilà. D'accord. Donc on part de ce qu'on appelle un pattern rythmique ou un rythme traditionnel et puis on essaye d'intégrer, justement, c'est là où on fait du mélange. C'est là où on part d'un rythme traditionnel et on intègre des accords qui ne sont pas forcément dans cette musique-là et du français qui n'existe pas forcément dans cette musique traditionnelle.
Alors là, vous entamez ce printemps une tournée française, ce soir, soirée de lancement du disque au studio de l'Ermitage à Paris, dédié justement aux musiques du monde. Bazar et bémol sur scène, ça ressemble à quoi ?
Alors déjà, c'est génial, je voulais le dire, sincèrement.
En toute modestie,
bien sûr. Bien sûr.
Ça ressemble, vous l'avez évoqué, à nos débuts, on a appris à faire beaucoup, à chalander, en fait, à appeler les gens à nous regarder, à nous écouter et à rire, parce que c'est beaucoup ce qui arrêtait les gens quand on était à nos tout débuts dans la rue. Donc sur scène, il y a encore pas mal d'humour à la volée, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose dans la foule, et ben, on rebondit dessus. Quand il y a parfois une erreur dans une chanson, et ben, on en fait une blague. Et donc c'est assez léger, avec des thèmes qui sont dans le chanson assez profond et c'est plutôt dansant, donc c'est une sorte de bazar qui mélange beaucoup d'émotions.
On essaie vraiment d'avoir un échange aussi avec le public quoi, pas arriver faire son set, donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe on rebondit dessus quoi, et on essaie de
voilà. Voilà, donc ce soir, le studio de l'Ermitage, vous serez aussi le 8 avril à Saint-Cernin-du-Plain dans le Mâconnais, le 21 avril dans le Off du Printemps de Bourges, grande date évidemment de la saison musicale française, le 27 mai à la Ferté-Bernard dans la Sarthe, le 4 juin à Avignon, le 21 juin pour la Fête de la Musique à Saint-Just-en-Chaussée, ça se trouve dans la Somme, en région Picardie, un peu au nord de Paris, le 14 juillet pour la Fête Nationale en Normandie, à Dreux, le lendemain à Saint-Quentin-l'Étrault, le 23 à Cadillac, près de Bordeaux, dans le 85 également en Vendée à la faute sur mer un petit peu plus tard. Merci beaucoup à tous les deux, Ronan et Chach. Parfum des temps, le nouvel EP donc de Bazar et Bémol à découvrir. On se quitte avec La Complainte des Malheureux, peut-être le morceau le plus français du disque, si je puis me permettre. Merci beaucoup.
Te dire, te dire, te dire. parmi l'audience et tu siffles ta propre pièce.
Lève-toi, 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 joue et danse. Écris une œuvre qui te tienne en liesse.
Elle tourne en t'éteinte la complainte de tes malheureux. Tu la maudis mais tu chantes la complainte des malheureux. Elle tourne en t'éteinte la complainte des malheureux.
La complainte des malheureux, bazar et bémol sur RFI.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et avec nous cette semaine, Hortense Vol, Laura Dulieu et José Marigno. Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour Jean-François. François.
Nous sommes donc quatre. Est-ce que nous sommes assez, José?
Oui, alors voilà les événements. Voilà.
Nous sommes assez. Ça se dit en anglais, we are enough. Exactement. Et c'est le nom de l'événement d'art contemporain que vous allez nous présenter dans un instant. Ça se passe dans deux galeries parisiennes.
Voilà, un événement qui réveille les consciences tout en douceur, à coups de pinceau en fait.
Vous, Hortense, vous avez pris la direction du Sud pour l'événement musical du week-end consacré aux musiques du monde.
Oui Jean-François, le monde s'est donné rendez-vous à Marseille pour le Babel Musique XP et c'est avec grand plaisir que je vais m'en faire l'écho.
Quant à vous Laura, vous êtes retournée dans le Mexico des années 80, dans un lieu mythique, légendaire même de la vie nocturne mexicaine de cette époque, El Nueve, dont l'âme habite pour quelques semaines encore le Théâtre de la Commune à Aubervilliers.
Et ce que vous entendez là, ça se passe derrière la scène du Théâtre de la Commune, derrière le rideau où sont invités danseurs, comédiens et publics pour danser et retrouver l'âme de El Nueve. Et ce soir-là, c'était le soir de la première, il y avait un invité de marque.
Et c'est pas fini, la surprise, c'est que Monsieur Henri Donadieu est parmi nous ici ce soir.
Henri Donadieu, c'est le fondateur donc de El Nueve. Il fonde le bar en 1977 avec son ami Manolo Fernandez. L'histoire va durer 13 ans et El Nueve enflammera chaque soir à Mexico. Mais ce lieu était bien plus qu'une boîte de nuit. Et pour vous le décrire, parce que moi je n'ai pas connu ce lieu, je suis un peu trop jeune, c'est Henri Donadieu qui en parle le mieux.
Le Neuf, c'est un endroit qui a changé la mentalité d'une époque. Quand je suis arrivé au Mexique, fin 76, il y avait beaucoup de répression contre les homosexuels, contre les gens de la diversité sexuelle. Et le 9, il s'est passé un phénomène, premièrement parce que c'était un endroit gay, mais que j'ai ouvert à tout le monde, à condition que tout le monde respecte tout le monde. Et alors, il s'est constitué ce que j'appelle en anglais un melting pot. Il y avait de tout au Neuf, mais les gens vibraient à l'unisson. En plus de la fête, parce que c'était l'endroit de la fête à Mexico, c'était un succès extraordinaire. C'était aussi un endroit très culturel. Il y avait ce mélange de diversion et de culture. Chaque soir, le Neuf était ouvert de lundi à dimanche. Tous les soirs étaient différents. Et le Neuf a été surtout pionnier au niveau de la musique. Tous les grands groupes de rock d'aujourd'hui qui sont fameux dans toute l'Amérique latine sont sortis du Neuf. Le Neuf a édité deux revues qui ont marqué ce qui est maintenant le courant culturel des intellectuels d'aujourd'hui qui s'appelle la contre-culture. Il y a un ciné-club. Et je me suis donné aussi le goût au Neuf de tenir une compagnie de théâtre merveilleuse qui s'appelait la Quiche Compagnie.
Alors vous l'aurez compris, il s'en est passé des choses au Nueve et c'est cet esprit libre et novateur qu'a voulu ressusciter Monika Gindersdorfer, la metteuse en scène de cette œuvre. Et l'histoire incroyable, c'est qu'elle connaît le Nueve. Elle l'a fréquenté dans les années 80 quand elle était étudiante là-bas sans avoir jamais rencontré Henri Donadieu.
Ça fait longtemps, j'avais 19-20 ans. C'était pour moi un temps très très important. J'ai plus vécu ça, pas trop analytique, mais sensuellement, quand j'avais 19 ans. Mais je suis allée chaque jour, tellement ça m'a plu.
Pendant combien de temps?
Bon, je pense que j'étais là comme 2 ans. Quand moi, je suis partie du Mexique, la rupture, la fermeture du neuf était brutale. Mais pour moi aussi, ça était brutal parce que mon meilleur ami est mort du sida. Alors, on a vécu une épidémie dans 7 ans. Et quand je suis retournée en Europe, pour 1 année, je ne parlais même pas. C'était quelque chose de très grave aussi, de perdre des personnes très, très proches. Et aujourd'hui, des choses comme ça reviennent, qu'on perde des personnes très, très proches. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a ramené au passé. Je me dis, j'ai déjà vécu ça une fois, que la personne que j'aime plus meurt.
Et 40 ans plus tard, pour faire revivre ce lieu, Monika Gintersdorfer investit donc le théâtre de la commune dans le nord-est de Paris. Alors.
Et tout le théâtre, on dit
tout
bien.
Le théâtre.
Tout le
ouais,
théâtre,
ouais.
Car dans la petite salle, il y a des vidéos d'époque et des photos projetées au mur. Dans la grande salle, chaque soir, il y a des performances live, danse, de l'humour, ambiance cabaret. La plupart des artistes viennent du collectif international La Fleur. Des artistes mexicains ont aussi logiquement été invités. Et derrière, je vous le disais, un espace de danse. Alors, on l'a entendu, on sent cette relation très spéciale entre la metteuse en scène et El Nueve. Alors, je lui ai demandé à Monika Gintersdorfer, est-ce qu'il s'agit là, par hasard, d'une thérapie?
Moi, je n'aime pas appeler ça une thérapie. Hein.
Comment vous l'appelleriez?
C'est un travail artistique qui est lié beaucoup avec nos expériences émotionnelles. Mais les choses ne se guérissent pas facilement comme ça seulement parce qu'on fait une pièce. Mais je suis tellement contente qu'Henri est arrivé. On peut dire, j'appelle pas ça une thérapie, hein, j'appelle ça la joie.
Et El Nueve a fermé en 1989, assez brutalement. C'était une fermeture non voulue qui était administrative. Et depuis, la légende n'a cessé de grandir. Henri Donadieu.
J'ai décidé de laisser le neuf tranquille. Le neuf avait vécu. Moi, je crois que les boîtes, ils ont une vie, comme les personnes. Le neuf avait donné ce qu'il devait donner. Et pour Mexico, le neuf avait marqué une ouverture pour la jeunesse, un esprit de liberté, parce qu'il n'y avait pas de liberté avant. De fait, au fil des années qui ont passé après la fermeture du neuf, petit à petit, la légende a grandi. Il est sorti des livres. Paramount est en train de faire une série sur le neuf. Netflix va faire sur mon livre une docu-série. Ça se fait un peu comme une boule de neige.
Et si vous voulez ressentir un peu ce lieu et son héritage culturel immense, vous pouvez y aller. C'est donc à Aubervilliers, au Théâtre de la Commune. Et c'est tous les soirs jusqu'à ce dimanche, dépêchez-vous, 26 mars.
Laura Dulieu dans le Café Gourmand de VMDN.
Trip too big in Ganja, I went flexer, yeah. Tina said gym, yeah. Too hot like a heater. My neck done froze like winter. Don't bet it on me, liquor, yeah. Shice told me, picture MJ on the shit, thriller. Funny vibes every night, enter. Nanka lagata, Costa, yeah. A kiss star like Fokker, huh. Pull up in a beam, too much too clean, I'm taller, I don't foster. Serious and other, yeah. A big time player. A trip too big in Ghana. I went flexer, yeah. Tina said gym, yeah. Too hot like a heater. My neck done froze like winter. Don't bet it on.
Allez, on part en Afrique comme promis. We are enough à la 193 Galerie et la Galerie Karol Kwasniewski à Paris. C'est une exposition collective d'art contemporain africain, José, avec des œuvres qui invitent à déconstruire les préjugés qui composent les sociétés modernes africaines.
Oui, alors visiter cette exposition, effectivement, c'est comme écouter de la musique parce qu'il y a beaucoup de rythme. C'est une exposition à découvrir, une histoire aussi africaine très riche, puissante, mais aussi sa richesse créative actuelle. Donc c'est aussi rencontrer 11 artistes contemporains africains qui délivrent des messages de paix avec poésie, imagination et évidemment soif d'avenir.
Oui, histoire d'ailleurs de rêver d'un monde meilleur.
Oui, et plus coloré, devant des photos, des tableaux, du street art et même, Jean-François, des tapisseries psychédéliques africaines, ça existe.
Bien sûr, avec vous, tout prend tout de suite une tournure psychédélique, y compris la tapisserie. Oui.
Exactement, le tout ici montré sur 500 mètres carrés. Ils sont sénégalais, ivoiriens, sud-africains, kenyans ou nigérians, et tous sont de les sociétés africaines et l'heure du diaspora pour comprendre les clichés, comme vous avez dit, et les préjugés qui les empêchent finalement de rêver en grand.
Avec un vrai mot d'ordre, José.
Oui, ne pas parler à la place d'un continent de plus de 1 milliard d'Africains, d'où le titre de cette exposition, Nous sommes assez en français, un défi lancé par Roger Niguiguena Carrera, commissaire de l'événement.
We are enough, nous sommes assez. Il y a un besoin de le prouver avec cette force du peuple africain, notre histoire, notre richesse. On puisse quand même continuer à avoir une certaine légitimité, avoir une souveraineté pour que la jeunesse puisse continuer à rêver dans un monde globalisé sans se poser des questions de savoir est-ce qu'on est le bienvenu en Europe, est-ce qu'on est le bienvenu aux États-Unis. On n'a pas volé notre place dans des sociétés dites développées, mais aussi on a notre place sur notre continent. On a des capacités de pouvoir penser et faire. Cette expo, c'est vraiment comment les artistes africains se voient dans ce monde justement où les centres continuent à bouger. Paris n'est peut-être plus le centre comme il a été avant. Et aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui regardent Dubaï, qui regardent Hong Kong. On essaie justement de prendre ce recul-là et de pouvoir justement avancer avec les sociétés qui nous ont quand même dominés, mais aussi en disant, construisons ensemble ce monde qui va vers l'avant et qui va vers l'inconnu.
Et pour aborder un si vaste sujet, Roger Niguiguena Carrera a créé, José, une narration artistique simple afin de captiver les visiteurs.
Oui, l'événement a été pensé comme une promenade novatrice dans une scénographie particulièrement soignée, tel un beau livre d'art dont on parcourt les pages.
La personne qui va rentrer dans cette exposition va faire comme s'il lisait un livre. Du coup, j'ai vraiment imaginé 8 chapitres qui composent ce projet. Chaque chapitre correspond à un propos, le plus logique, le plus simple possible. Pourquoi aujourd'hui, moi, français d'origine rwandaise, je suis migrant? Et pourquoi l'équivalent de moi en Afrique, c'est un expatrié? Donc c'est vraiment continuer à se poser ces questions-là pour qu'un non-initié puisse comprendre l'exposition, mais un initié puisse aussi trouver son bonheur. Il faut que visuellement aussi, on puisse avoir un rythme, même si au chapitre 1, on peut avoir peut-être des artistes plus connus que le chapitre 2, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le propos qui, ici, est égal. On découvre et chacun trouve l'émotion qui lui va à chaque fois qu'on avance dans l'exposition.
L'exposition We Are Enough, c'est donc un parcours en 8 chapitres qui réunissent les œuvres de 11 artistes africains.
Et chaque artiste répond à un propos bien spécifique. Par exemple, dans le premier chapitre Conscience, les tableaux de l'ivoirienne Johanna Choumali évoquent un univers onirique comme pour conjurer la violence du monde.
Et plus loin, l'étape Identité multiple met en lumière le travail de la Sud-Afrique.
Qui expose actuellement d'ailleurs
à la MEP, Maison Européenne de la Photographie, dans le quartier du Marais à Paris.
Alors exactement, d'un activisme visuel absolu, ces photographies donnent une visibilité actuellement pratiquement inexistante à la communauté LGBT noire. Maintenant, à vous, je vous laisse choisir un petit chapitre, vous avez le choix entre 8.
Je dirais par exemple le chapitre Renaissance.
Eh bien, ça tombe très bien, l'artiste sénégalais Moudou Dieng Yassine, c'est notre coup de cœur. Ce diplômé des Beaux-Arts de Dakar, vivant aujourd'hui aux États-Unis, présente une série dédiée aux tirailleurs sur des photos d'archives en noir et blanc et la pose de la peinture colorée.
Oui, c'est une manière pour lui de ramener ces héros noirs oubliés, de les ramener à la vie en fait.
Oui, de se réapproprier aussi son identité africaine tout en défendant l'Afrique, une Afrique fière de ses ancêtres.
Les tirailleurs, ce sont nos ancêtres. Mon propre grand-père était tirailleur. Si je suis aux États-Unis, c'est parce que j'ai émigré là-bas, je suis un migrant. Et quand on parle de migration, les premiers, en fait, c'était les tirailleurs. Ils ont travaillé pour la France, ils ont travaillé pour l'Europe, ils ont participé au fait qu'on soit ici aujourd'hui. Quand on parle des tirailleurs aujourd'hui, ils sont vieux. Mais quand ils étaient en action, ils étaient des jeunes noirs qui avaient un rêve et qui voulaient vivre une belle vie et qu'ils ont mis leurs efforts physiques et mentaux sur ça, même si c'était en partant à la guerre. Donc c'est une manière de les rendre hommage et de les rajouter à notre vie contemporaine pour qu'ils fassent partie. Parce que c'est une histoire partagée et victorieuse dont on doit être fier. Parce qu'après tout, nous avons gagné la guerre. Ce sont des personnages qui ont été marginalisés du point de vue historique. On ne peut pas le cacher, l'image du noir, c'est des stéréotypes. J'ai grandi avec ces stéréotypes et j'aimerais bien qu'on puisse me voir et voir que c'est un homme fier, un homme qui participe à l'avancée du monde, aux cultures du monde. Et non seulement pour moi-même, mais aussi pour les générations à venir. Mais il faut que ces personnalités du passé, marginalisées, sous-estimées, réduites, à moins que rien puisse exister avec nous.
Alors, dernière escale, Unité et fierté. Elle boucle le cheminement de cette exposition avec Alexis Pesquier, un artiste métissé, puisqu'il est français d'origine russe et afro-brésilienne.
D'ailleurs, il était habillé aujourd'hui, vendredi, tout en blanc, puisque au Brésil, le candomblé oblige à s'habiller en blanc. Et il signe d'étonnants portraits de personnes issues des diasporas africaines, comme lui d'ailleurs, avec une méthode très originale. Alors, je vais essayer d'expliquer, d'être clair.
Allons-y.
Des clous sont enfoncés avec minutie dans du bois teinté de café ou de bissap, puis il applique des feuilles d'or sur les têtes de ces clous pour créer des images composites des personnages qui incarnent les Minkisi du Congo.
Les Minkisi du Congo, qui sont donc des power figures, des figures de pouvoir qui protègent les gens qui les possédaient, qui sont faites avec des clous. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'utilise le clou dans mon travail, pour cette protection. Et en fait, les gens qui sont représentés deviennent plus ou moins des entités de la différence. C'est une quête artistique et une quête de vie. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées à cause de dynamiques de pouvoir, de soft power. Donc pour moi, c'est assez important de découvrir la vérité des expériences des afrodescendants. C'est vrai qu'on est un peu attaqué de partout, historiquement et toujours. On va dire le continent africain, qui est un peu la base de départ des afro-descendants qui sont un peu éparpillés partout dans le monde comme un miroir cassé. Et de comprendre en fait notre monde, ce qui s'est passé avant, et essayer d'aspirer à un meilleur futur, à un futur plus abondant.
Voilà, We Are Enough, exposition d'art contemporain africain. 11 artistes à découvrir à la 193 Galerie et à la Galerie Karol Kwasniewski jusqu'au 15 mai à Paris. Merci José. Prenons avec vous, Hortense, la direction du sud-est de la France, où s'est ouvert hier soir à Marseille le Babel Music XP, un marché et un festival de musiques actuelles du monde.
Un rendez-vous important et attendu par la filière, Jean-François, puisqu'il renaît après 5 ans d'absence. 2000 professionnels du secteur, labels, producteurs, artistes, tourneurs sont venus de tous les continents pour participer pendant 3 jours au Babel Music XP et parler affaires, entre autres dans les salles de la Friche de la Belle de Mai. Parmi eux, Ibrahim Keita, directeur du Soko Festival à Ouagadougou et membre du YAR, un réseau panafricain dédié au spectacle vivant.
Alors, le Soko Festival, c'est une initiative qu'on a mis en place depuis 2015, qui marche très bien, où on travaille avec des collectivités françaises, des professionnels qui viennent au Burkina Faso dans le cadre d'un jury où on a mis en place pour enfin sélectionner deux groupes qui permettent de tourner un peu dans l'Hexagone. Et ça, ça a donné naissance au YAR. Voilà, le succès de ce projet a donné naissance au YAR, où on s'est mis ensemble entre des acteurs de la filière musique pour permettre à nos artistes de tourner un peu partout en Europe, mais aussi de les faire tourner dans notre propre réseau en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, le YAR est présent sur le Babel dans le cadre d'une future collaboration avec le Babel et bien sûr d'autres festivals ou marchés du monde, puisqu'on est tous aujourd'hui à Marseille, c'est d'arriver à avoir un partenariat ou des partenariats qui nous permettent de donner une visibilité sur nos projets et sur les autres projets du monde.
En plus de proposer un marché international, le Babel Music XP entend jouer un rôle dans la réflexion collective d'un secteur du spectacle vivant en plein bouleversement. Une trentaine de rencontres sont ainsi programmées pour aborder des thèmes tels que l'explosion des cachets des artistes, la concentration des festivals aux mains de multinationales ou la nécessaire sobriété énergétique du secteur.
يا نسمة البان يحبي على رسوم المحبي.
Alors on l'a compris, Hortense, le Babel Music XP, c'est un salon professionnel, mais c'est aussi un festival de musique. À quoi peut s'attendre le public ?
Eh bien d'abord, Jean-François, il est invité à participer aux tables rondes, projections et autres conférences qui sont ouvertes à tous et qui ont principalement lieu à la Friche de la Belle de Mai, en journée et puis à partir de 20h, tout comme les professionnels, le public est attendu au Dock des Suds où chaque soir une dizaine d'artistes sélectionnés par plus de 1400 projets déposés se succèdent sur 3 scènes pour offrir un panorama des musiques actuelles mondiales de Jakarta à Kinshasa en passant par Casablanca où est né Walid Ben Selim que l'on écoutait à l'instant. Le directeur du Babel Music XP, Olivier Ré, vous dit tout.
On propose 32 concerts qui viennent donner un peu un instantané, une photo de la création musicale mondiale. On est évidemment un événement qui travaille autour de l'émergence, mais très souvent les projets qu'on propose ont un accompagnement professionnel. Des fois sont des stars sur leur propre territoire et ils cherchent à investir des nouveaux marchés, notamment le marché européen ou nord-atlantique. Et donc c'est ça qu'on propose au grand public, c'est de venir voir peut-être les headliners, les têtes d'affiche de dans 2 ans. Dans les 32 groupes, il y a à l'évidence des groupes qu'on va retrouver, qui vont irriguer et nourrir l'ensemble des festivals ou des salles. Et évidemment que le public, la promesse qu'on fait au public, c'est de venir participer à ce marchepied-là important pour les artistes. Et c'est une manière aussi de balayer les clichés, les a priori qu'on peut avoir sur certaines choses. Qu'on vient écouter du rap indonésien ou de l'électro congolaise, de fait, ça vient battre en brèche un peu les idées préconçues qu'on peut avoir sur ce genre de territoire.
Battre en brèche les idées reçues, comme le disait Olivier Ré, bousculer les conventions et les carcans dans lesquels la société voudrait l'enfermer, c'est bien contre ça que se bat l'indonésienne Yako. Maître de conférences le jour, rappeuse la nuit, elle est également responsable de la programmation d'un festival hip-hop à Jakarta. Ce soir, au Babel Music XP, elle se produira avec Tuan Tigabella, un autre MC indonésien.
Il y a tellement de rappeurs différents en Indonésie. C'est ce dont j'aimerais aussi parler sur scène. Et j'espère qu'après cela, les gens s'intéresseront davantage au rap indonésien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en tant qu'organisatrice de festival, je souhaite profiter de ma présence ici pour découvrir comment l'équipe du Babel s'y prend pour monter un tel événement. La variété du programme proposé, rencontrer les médias présents, assister au séminaire, c'est tout ça que j'aimerais apprendre au Babel Music XP.
La rappeuse indonésienne Yako, qui sera bientôt dans Session Lab, était l'invitée hier ici au Dock des Suds de Couleur Tropicale. Et mon tonton Claudicière vous donne une nouvelle fois rendez-vous ici ce soir en direct du Babel Music XP à 20h10 TU, 21h10 heure de Marseille, entouré notamment des Quilnois, du Foulou Musiki et des Marseillais du Troisième Œil.
Rendez-vous est pris, merci Hortense Vol et bon Babel Music XP à tous. Merci aussi à Benjamin Saralier et Richard Effono qui sont avec vous, Hortense à Marseille. Merci aussi à Laura et José à mes côtés ici à Paris, à Nicolas Benita et Valentine Lemaire qui m'ont accompagné cette semaine. Dans un instant, le journal sur RFI lundi, Marjorie Bertin sera aux manettes et vous m'en direz des nouvelles.